Bonjour, prenez place, notre culte va commencer. Les annonces défilent. Je vous rappelle juste l'offrande. Notre église vit de vos dons. Nous payons notre pasteur, les terrains avec. Nous entretenons le bâtiment, nous payons nos activités. Sandra est... Bonjour. Des anciens de Mérin qui sont là. Bonjour, bienvenue. Vous pouvez payer, il y a une petite caisse sur la bibliothèque qui est là derrière, vous pouvez mettre votre offrande, vous pouvez payer sur Twint, vous payez directement sur le compte par virement bancaire, tout est indiqué. Merci. Thierry.
Bonjour à chacun, chacune. Juste une annonce pour vous rappeler notre cours alpha, parcours alpha, qui va tout bientôt commencer dans une semaine et demie, le 10 avril. On est très encouragés, il y a déjà 7 inscrits qui vont faire ce parcours. Donc merci de prier pour eux, merci de prier pour nous, toute l'équipe qui encadre ce parcours. Et merci de continuer à inviter jusqu'au dernier moment, même après la date limite, il y a très peu d'événements comme ça. Hein. Les gens peuvent venir plus ou moins quand ils veulent, même s'ils viennent à la dernière séance, c'est OK. Le but, c'est que les gens viennent, parce que parfois, des gens viennent à une séance, puis ils se disent, bah, en fait, c'est chouette, et ils reviennent. Ils reviennent au prochain cours, ou ils reviennent 2 ans après. Donc voilà, invités, même si ça a déjà commencé, même s'ils viennent au dernier moment, voilà, il y aura assez à manger, on sera préparé à accueillir ceux qui viennent plus ou moins n'importe quand. Donc n'hésitez pas. Et puis merci vraiment de prier. On fait ce qu'on peut, nous, humainement, mais on a vraiment besoin de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit, pour qu'il agisse dans la vie de ces personnes. Voilà, merci.
Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés. Mon sauveur, bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin.
Le dimanche de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonjour à tous, bienvenue à chacun, chacune dans ce culte de Pâques. Enfants, jeunes ou moins jeunes, présents ou en streaming, joyeux ou tristes, découragés ou pleins d'entrain, chacun d'entre nous est le bienvenu et Dieu se réjouit que nous soyons là. Prions. Merci Jésus d'être venu sur terre partager notre vie. Merci pour ta vie qui nous a montré la qualité de l'amour que ton Père avait pour nous, a pour nous. Merci pour tout ce que tu as été, tout ce que tu as dit et fait. Merci d'avoir accepté de mourir à notre place. Merci pour ta résurrection qui nous assure le pardon. Ce matin, nous sommes là pour célébrer ta vie et la vie que tu nous donnes. Reçois notre reconnaissance et notre louange. S'il te plaît, faufile-toi jusqu'à notre cœur, afin que nous recevions la parole que tu as en réserve pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci. Nous pensons aussi à tous ceux qui aujourd'hui célèbrent la résurrection dans le monde. Nous sommes une grande famille, unie par ton Saint-Esprit. Merci d'être de cette famille. Amen. Bon, les enfants, je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses cachées. J'ai caché dans la salle, il y en a aussi sur le bord de l'estrade, des œufs, 20 œufs. À vous de les trouver. Allez-y. Et puis vous les apportez, vous les mettez là-dedans quand vous l'avez trouvé.
17.
3.
Ah, voilà. Bonjour. Ouf. 18, 19, encore 1. Vous avez regardé dans une plante là-bas?
Oui.
Mais bon, c'est trouvé. Qui a encore un œuf? Ah, 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 ah. Bon, maintenant, vous pouvez tous venir là. Et vous allez me dire ce que vous pensez de ces œufs. Qu'est-ce qu'ils ont, ces œufs?
Ils
sont jolis?
Ils sont
jolis? Ouais. Il y en a combien semblables? Il y en a combien qui sont les mêmes? Zéro. Oui, il y a 20 œufs, tous différents, parce qu'on est tous différents les uns des autres. Vous êtes d'accord, hein? Ayana, elle n'est pas comme Aaron. Hein? On est d'accord. Vous avez tous votre caractère. Mais Dieu, il vous aime chacun. Avec vos défauts, il les connaît, les défauts, mais il vous aime avec vos défauts et avec vos qualités, avec les fois où vous faites des bêtises et avec les fois où vous êtes très, très sage. Et si on est aimé et accueilli de Dieu, on est invité à faire pareil pour les autres, à aimer celui qui nous embête. Et c'est ça que la résurrection nous permet de vivre, parce que Jésus a été plus fort que tout le mal qui avait été dans le monde. Alors c'est lui qui nous aide à nous aimer les uns les autres, parce qu'il est ressuscité et qu'il vit toujours dans notre cœur. On peut toujours lui parler pour lui demander de l'aide pour le faire. Voilà. Maintenant, on peut louer.
Bonjour à tous. Alors au début de ce culte, on a entendu un chant qui s'appelle « Gloire à son nom » et le sous-titre c'est « Anastasis ». Anastasis en grec, ça veut dire « se relever, se dresser », c'est le mot qui est utilisé dans la Bible. Pour exprimer le fait que Jésus-Christ s'est relevé, il est ressuscité, il est Anastasis, et le fait qu'il soit ressuscité, qu'il soit relevé, ça implique que nous aussi, nous pouvons nous relever dans cette vie et dans la vie à venir. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de le citer ici, mais Charles Ferdinand Ramu, notre poète national, que j'ai beaucoup étudié, concluait l'un de ses romans en disant que notre démarche, notre vie n'est plus qu'une suite de chutes. Et j'aime à penser ce que ça implique, et prendre un petit peu son contre-pied, c'est que j'aime à penser que la vie de foi n'est qu'une suite de redressement, une résurrection continue. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous redresser, à vous relever avec nous et dans la joie de notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Donc, amen, victoire. Et je vous invite à un petit peu sortir de notre habituelle un peu torpeur du dimanche matin pour chanter un chant de victoire. Commencez par chanter victoire, ça ne sera pas directement affiché là, mais imaginez qu'il y a un petit victoire qui est là-dessus, et à chanter de tout votre cœur, chanter un cri de victoire, il est ressuscité.
Victoire, puissant la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. En quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. nous crions ensemble. Victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Où les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble. Sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Au Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
Tu es merveilleux dans tout ce que tu as, Seigneur. Nous l'avons chanté ce matin, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as rachetés à la croix.
Comme toi, Dieu puissant éternel, tu nous as consolés, tu nous as relevés, ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient, tu corriges et conduis toujours à nos côtés. Toujours pour nous aider, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix. Justice et vérité, en toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté, tu es merveilleux dans tout ce que tu es, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, tu es merveilleux
alors qu'on joue un petit peu moins fort et puis que Alex va continuer à passer les paroles, je vous invite à méditer sur ce qu'on vient de chanter et peut-être à dire pour vous ou pour vos voisins qui sont à côté de vous, pourquoi est-ce que Dieu est merveilleux pour vous? Est-ce que c'est une parole de ce chant en particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé dans la semaine? Pourquoi est-ce que Dieu est merveilleux pour moi? Alors pour vous ou à voix haute, simplement dites-le.
Dieu est merveilleux pour moi parce qu'il est fondamentalement bon.
Dieu, tu es merveilleux parce que malgré ta grandeur, tu t'occupes de nous qui sommes tout petits. Des petites créatures. Et tu aimes chacun d'entre nous. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père, mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Vous savez pourquoi on met des œufs à Pâques ? Dans un œuf, il y a tout ce qu'il faut pour la vie, pour nous nourrir, nous, mais aussi s'il y a un poussin et si la poule reste sur les œufs, s'il y a un papa et que la poule reste sur les œufs, il y a un poussin qui se nourrit du jaune et du blanc jusqu'à sa fin. Est-ce qu'on arrive à mettre la photo ? Et à la fin, il naît, hein, un œuf, c'est tout inerte, hein, c'est dur, et puis voilà. Il y a la vie qui est là, un joli petit poussin qui est né. Les enfants, vous allez rejoindre vos groupes, mais vous pouvez encore rester juste 2 secondes assis, je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour ta vie, merci Seigneur pour ces enfants, nous les aimons, nous sommes heureux qu'ils soient là. Ils sont parfois turbulents, mais ils nous annoncent que la vie est là. Bénis-les, bénis leurs moniteurs et donne-leur beaucoup de joie dans cette journée. Amen.
Bonjour à chacun, à chacune, très heureux d'être avec vous pour ce culte de Pâques, si mon smartphone veut bien rester aussi avec moi. Denise a fait l'annonce tout à l'heure concernant la possibilité de l'offrande. Vous savez que depuis les années Covid, qui ont été un peu compliquées, nous avons momentanément renoncé à recueillir nos dons dans le cadre du culte. Mais je tiens à vous annoncer simplement que suite au dernier colloque, aux discussions aussi dans le cadre du conseil, à partir de dimanche prochain, nous reprendrons l'offrande dans le cadre du culte. Merci donc d'y penser si vous souhaitez exercer votre générosité à ce moment-là. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, notre grande joie aujourd'hui est de fêter la résurrection de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre ami, notre frère. Merci pour cette résurrection qui ouvre tout grand les portes de l'intimité éternelle avec Dieu. Je te prie que ce temps de réflexion autour de ta parole viennent édifier, consolider, encourager notre foi ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Matin de Pâques, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Les femmes, d'abord, l'ont vu. Et elles ont été chargées d'aller l'annoncer à leurs frères, aux disciples, qui ont eu un peu de peine à le croire, mais qui, finalement, convaincus, l'ont vu aussi ressuscité. Puis la Bible nous parle des compagnons d'Emmaüs qui le rencontrent ressuscité, qui partagent un repas avec lui. Et l'apôtre Paul, dans sa première aux Corinthiens, nous rapporte que plus de 500 croyants à la fois l'ont vu ressuscité. Nous sommes, avec la résurrection du Christ, devant un fait historique, constaté par des centaines. Le Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. La mort est vaincue. L'œuvre de Dieu est complète et parfaite. Tout est accompli. Les cartes sont rebattues. Des perspectives toutes neuves sont offertes. Après des mois où plusieurs d'entre nous, nous avons été confrontés à la mort d'un proche, c'est là une vérité à chérir. La mort est vaincue. Jésus l'a démontré par sa propre résurrection. Notre foi n'est pas vaine. Alex, est-ce qu'on peut envoyer le premier slide ? Notre foi n'est pas vaine, mais ce n'est pas tout. Au matin de la résurrection, le message de Pâques annonce un monde nouveau, radicalement nouveau. La résurrection du Christ, c'est l'événement fondateur de ce monde nouveau. Avec Jésus, il y a l'émergence d'un nouveau peuple de Dieu. Un peuple issu de tous les peuples et uni par la foi au Christ ressuscité. Un nouveau peuple, uni par la foi au Christ ressuscité. Sauf que dans la pratique, nous savons, vous et moi, que ce n'est pas aussi simple que ça. Au début de l'histoire de l'Église, tous les chrétiens étaient des juifs, ou des prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs convertis au judaïsme. Et beaucoup pensaient que c'était très bien comme ça, que tout le monde partageait une même foi issue de la foi juive. Il y avait là un pré-carré à protéger. Il y avait là la conscience de privilège, d'une certaine identité à sauvegarder. Et que ceux qui voulaient devenir chrétiens devaient aussi se faire circoncire, par exemple, ce qui était la marque de l'appartenance à la religion juive. Ceux qui voulaient devenir chrétiens devaient observer certaines lois juives, sinon ils ne faisaient pas partie de l'équipe. C'était là la première grande dispute théologique dans l'histoire de l'Église, qui en connaîtra bien d'autres, des disputes théologiques. Mais voilà que, peu après la résurrection, le livre des Actes des Apôtres relate un événement qui va tout changer. C'est la conversion d'un païen, un officier romain, du nom de Corneille. Corneille, ce n'était pas un prosélyte, il ne s'était pas converti au judaïsme, mais s'il était un sympathisant du judaïsme. Ça n'a pas été facile.
Dieu a dû utiliser les grands moyens pour convaincre l'apôtre Pierre d'aller visiter Corneille. Alors, Dieu envoie un ange à Corneille pour lui dire de faire venir Pierre. En même temps, Dieu envoie à Pierre une vision spectaculaire et l'avertit que des hommes le cherchent. Puis, en discutant avec Corneille, Pierre se rend compte que tout était préparé par Dieu et que lui, Pierre, devait élargir sa vision de l'œuvre de Dieu. Il devait élargir sa vision de l'œuvre de Dieu. Et pour ce Pâques 2024, je nous pose la question, ou plutôt le défi, de savoir si nous avons besoin, nous, d'élargir notre vision de l'œuvre de Dieu. Avons-nous besoin d'élargir notre vision de l'œuvre de Dieu? Se pourrait-il que notre compréhension de l'œuvre de Dieu soit étriquée? Avons-nous besoin de l'élargir? Le texte biblique dont nous allons écouter la lecture maintenant parle de ça. Dieu accueille tout le monde. Dieu accueille tout le monde. Et nous. Je vous invite à écouter la lecture d'Acte 10, les versets 34 à 43.
Pierre, sonneau. C'est bon? Pierre prit alors la parole. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a annoncé la bonne nouvelle et baptisé. Vous savez comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé la puissance de l'Esprit-Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le pendant au bois de la croix. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisi d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont témoigné à son propos en disant que toute personne qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom.
Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, ce qui vient ensuite, est un commentaire. Dieu accueille tout le monde. C'est Pierre qui le dit. Maintenant, dit-il, maintenant, avec Corneille, maintenant, là, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. On pourrait traduire « Je comprends que Dieu n'est pas partial. Je comprends que Dieu ne fait pas de favoritisme. Je comprends que Dieu n'a pas de chouchou. » Ou que Dieu n'a pas de réprouvé, de personne qui l'expulse. Étymologiquement, le terme grec qui est utilisé ici évoque le fait de recevoir quelqu'un en fonction de son visage, de ses apparences. Et Pierre dit, « Maintenant je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Alors évidemment, Dieu n'est pas comme quelqu'un qui accueillerait les uns, rejetterait les autres. Dieu n'a jamais été comme ça. On se demande presque comment Pierre ne l'avait pas compris avant. Pierre, qui a été 3 ans avec le Christ, il a pu voir comment Dieu accueille tout le monde. Comment est-ce qu'un Dieu juste et bon pourrait être partial? Dieu accueille tout le monde. Il n'est pas le videur qui se tient à l'entrée de la boîte de nuit de son royaume et qui décide de laisser entrer ou pas, en fonction de leur apparence, celles et ceux qui se présentent à la porte. Dieu n'est pas un physionomiste. Il accueille tout le monde. Dieu accueille tout le monde. Et pourtant, ce n'était pas évident pour Pierre d'aller chez Corneille, le non-juif. Il y avait des règles très strictes qui interdisaient aux juifs d'entrer chez des païens, de sympathiser avec eux, de manger avec eux. Alors dire cela dans ces circonstances, c'était vraiment porteur de sens. C'est une phrase clé du Nouveau Testament. Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Dieu accueille tout le monde. Il ne nous accueille pas en fonction de notre façon de nous habiller. Dieu ne nous accueille pas en fonction de notre apparence, de notre profil Facebook ou Insta. Il ne nous accueille même pas en fonction de notre appartenance religieuse. Il ne nous accueille pas en fonction de notre orientation sexuelle ou de notre orientation politique ou de notre façon de prier ou de lire la Bible ou de ne pas le faire. Dieu accueille tout le monde. Sur quelle base Dieu nous accueille-t-il alors? C'est là que c'est important. Pierre le dit, tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. 2 conditions, craindre Dieu et pratiquer la justice. En d'autres termes, avoir une vraie démarche de foi, même une foi hésitante, mais une vraie démarche de foi, et une volonté de conformer sa vie dans un souci de ce qui est juste. Comment Dieu nous accueille-t-il? Une vraie démarche de foi, conformer sa vie à ce qui est juste. Et je trouve que cette définition, ce n'est pas moi qui la donne, c'est l'Écriture, hein, mais je trouve que cette définition-là, une démarche de foi, conformer sa vie à ce qui est juste, c'est une définition qui est suffisamment large pour ne pas tomber dans le légalisme, pour ne pas tomber dans le discours de la morale. Et c'est suffisamment précis pour nous inviter à une démarche sincère et sérieuse. Et c'est vrai partout et tout le temps. Dieu accueille tout le monde. Il ne s'agit pas de dire que Dieu accueille n'importe qui, n'importe comment. Il ne s'agit pas de dire qu'il est toujours content, quoi qu'on fasse. Dieu accueille tous ceux, toutes celles qui vont à lui dans cet état d'esprit d'une démarche de foi empreinte de justice. Qui que ce soit, quel qu'ait été son chemin de vie, quelle que soit sa situation personnelle, où qu'il en soit, où qu'elle en soit, voilà l'accueil que Dieu réserve à tous et à toutes, ample, généreux, salvateur. Dieu accueille tout le monde. Et cette façon de le dire, c'est une autre façon de parler de la grâce de Dieu. Le plus grand sauvetage, a eu lieu en cette heure la plus sombre de l'histoire dont nous avons fait mémoire ici vendredi soir. Les péchés de beaucoup ont été payés par un seul. La vie éternelle due à ce seul homme, Jésus, cette vie éternelle a été mise à la disposition du plus grand nombre, de tous ceux, de toutes celles qui ont choisi de lui faire confiance et de croire en lui. Sur la croix, il a échangé notre pire contre son bien. La croix n'est pas ce que Dieu inflige pour pardonner. La croix est ce que Dieu endure en Christ en nous pardonnant. Dieu accueille favorablement tous ceux et toutes celles qui viennent à lui. Il ne met pas d'autre préalable à son accueil que la foi. Pas de rite ni de mérite, pas de préalable. Juste s'approcher avec confiance, avec reconnaissance, saisir la grâce qui nous est faite. Si Dieu accueille tout le monde, ce n'est pas parce que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il accueille tout le monde parce qu'il a fait le nécessaire pour permettre cet accueil sans condition. Et il le fait pour des hommes et des femmes imparfaits, brisés, en échec, incapables de s'en tirer tout seuls. Parce que c'est bien tout ce que nous sommes, vous et moi. La seule réalité sûre dans la vie, c'est quelque chose d'un peu absurde. C'est cette miséricorde anarchique de Dieu qui ignore l'ordre, le rang et le mérite. Ce que Dieu nous propose, c'est l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Lorsque Pierre évoque les grandes étapes de la vie de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection, il conclut comme ceci. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. À quelque part, ça fout un peu la pétoche. Ça fout les chocottes. On est mal devant ça. Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts. Ça fait un peu peur. Sauf qu'immédiatement après, Pierre dit « Toute personne qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. » Voilà de quel genre de jugement il s'agit. Un jugement selon la grâce pour le pardon des péchés. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui serait en colère contre nous. Nous n'avons pas affaire à un Dieu qui serait vengeur. Nous avons affaire à un Dieu qui nous aime et qui a pris sur lui le prix de notre jugement, de notre justification. Ça veut dire, mes amis, que qui que nous soyons, que quoi que nous ayons fait, Dieu nous accueille gratuitement. Il nous donne la possibilité d'un nouveau départ parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. C'est fait. Rien à prouver. Rien à ajouter. C'est fait. Et nous, Dieu accueille tout le monde. Et nous, qu'en est-il de son Église dans le monde, en Suisse, à Genève? Qu'en est-il de son Église, la nôtre, ici à Mérin? Accueille-t-elle vraiment tout le monde? Et quand je dis accueillir, ce n'est pas seulement dire bonjour poliment, mais c'est chercher à connaître, à aimer, à aider, à valoriser, à intégrer. C'est vouloir dire et c'est montrer bienvenue dans la communauté. Est-ce que nous accueillons tout le monde? En théorie, oui. Sans doute. Sans doute, en théorie, on accueille tout le monde. Mais en pratique, eh bien, j'ai l'impression que ce n'est pas si évident que ça. Un peu comme cette histoire entre Pierre et Corneille. Il faut que Dieu vienne nous bousculer. Il faut que Dieu nous mette au pied du mur pour qu'on se remette en question. Parce que ne se laisse-t-on parfois pas abuser par les apparences ? Vous savez, la première impression, la façon de s'habiller, de parler, de se comporter, la façon d'être accompagné ou pas. On voit arriver un matin au culte quelqu'un qu'on n'a jamais vu et on se fait tout de suite une idée sur elle, sur lui, une première impression. On lui met virtuellement une étiquette sur le front qu'il est ensuite si difficile d'enlever. Et au-delà du premier accueil, quand il s'agit d'approfondir la relation, d'encourager à une implication, d'envisager l'intégration dans la communauté, n'est-on pas un peu piégé par le modèle, plus ou moins conscient, de ce que devrait être un bon chrétien, une bonne chrétienne, ou un futur bon chrétien, une future bonne chrétienne? Il faudrait qu'il soit, qu'elle soit, un peu à notre image, non? Un peu comme nous. Dans nos églises, on a beaucoup de mal à intégrer les profils atypiques. On a beaucoup de mal à intégrer les cheminements qui sortent des sentiers battus. Et pourtant, il me semble que ces profils atypiques, il y en a de plus en plus parce que la vie est de plus en plus compliquée. On aimerait quand même, toujours un peu, que ces profils atypiques entrent dans le moule confortable du bon chrétien évangélique de base. Vous savez, je caricature un peu, mais ce bon chrétien qui va au culte presque tous les dimanches, qui cite l'apôtre Paul dans ses prières, qui écoute de la louange dans sa voiture, voiture sur laquelle, bien sûr, il y a un autocollant poisson. Ce bon chrétien de base, pour qui la série The Chosen est le sommet du septième art. Ce bon chrétien de base, qui aime le pécheur, mais qui déteste le péché. Enfin, parfois il mélange un peu les deux. Souvenons-nous que Jésus a passé une grande partie de son ministère à réprimander et à dénoncer non pas les gens ordinaires qui étaient des pécheurs, mais l'élite religieuse qui recherchait l'apparence publique de la justice, tout en étant, dit-il, plein d'ossements de mort. Si nous suivons le ressuscité, nous ne pouvons pas être pleins d'ossements de mort. Ça ne marche pas. Dieu accueille tout le monde. Pierre le dit. Jésus l'a fait, et nous. De quel Dieu sommes-nous les enfants ? Le Dieu de grâce révélé en Jésus-Christ ? Ou un autre Dieu, un Dieu sévère, exigeant, qui juge avant d'accueillir et peine à faire grâce ? Je vous propose que l'enjeu, il est là, le jugement. L'enjeu, c'est le jugement. Parce qu'il me semble le jugement être le contraire de l'accueil, en particulier dans une église. Le contraire de l'accueil, c'est le jugement. Parce que comment peut-on accueillir vraiment celui ou celle qu'on juge ? On a tous quantité de problèmes à régler dans nos vies. Les plus anciens membres de cette église, comme les derniers arrivés. Et les pasteurs, autant que les autres. Alors on est tous mal placés pour juger les autres. Qui es-tu, toi qui juges, demande l'apôtre Paul, Romains 14, verset 4. Nous sommes tous au bénéfice de la grâce de Dieu, de ce Dieu qui accueille tout le monde. Et nous. Je conclus. Si Dieu est parfait, et il l'est, les églises ne le sont pas. C'est logique, parce que nos églises sont fondamentalement humaines, parce que vous l'êtes, nous le sommes humains. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous ne pouvons pas nous arrêter à cette idée, on est imparfait parce qu'on est humain. On ne peut pas se satisfaire de ça. L'apôtre Pierre, il a accepté de se faire bousculer dans le confort de ses certitudes, y compris certitudes théologiques, par sa rencontre avec Corneille. Ce qui bouscule nos certitudes, c'est la rencontre avec les gens, les vrais, pas la théorie, la pratique. La vision de Dieu et de son royaume pour Pierre en a été profondément bouleversée. Et à partir de là, à partir de ce texte, l'Évangile, il a commencé à toucher les païens, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'ici, il ne touchait que les juifs et les prosélytes. Mais là, à partir de cette rencontre, à partir de cette remise en question, l'Évangile a commencé à toucher les païens. Et si nous voulons que l'Évangile touche les païens, nous devons nous résoudre à un accueil qui est celui de Dieu le Père. Si nous restons dans le confort de nos certitudes et de nos schémas préconçus, notre vision de Dieu et de son royaume restera étriquée et clivante. Et l'explosion de vie de la résurrection de Jésus-Christ restera pour nous comme un pétard mouillé, une promesse morte. Ce serait un immense gâchis. Jésus-Christ est ressuscité. Vraiment ressuscité. Et ça, ça bouscule tout. Parce que sa grâce, elle est ample et généreuse. Il se construit un peuple nouveau. Et par Christ, le Dieu de grâce accueille tout le monde. La promesse est pour tous et pour toutes. Toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Amen.
Dieu accueille favorablement celui qui vient à lui. Nous avons parlé, la parole vous est donnée maintenant pour répondre à ce que vous avez entendu ou autre chose. Dans votre cœur, dans la prière, par une réflexion, vous êtes les bienvenus pour prendre la parole. Prions. Seigneur, tu es merveilleux parce que tu nous accueilles. Tu m'accueilles, tu m'aimes tel que je suis, envers et contre tout. Même quand je désespère de moi-même. Merci pour ton accueil. Amen.
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Fais de nous des bâtisseurs d'amour. Dans le Christ ressuscité, qui vit en nous par ta grâce.
Amen.
Quand je pense à Pierre, je pense aux nombreuses leçons qu'il a apprises déjà en marchant avec toi, et puis par la suite. Je pense à la fois où il t'a trahi, où il t'a renié, où il a dû apprendre à tenir ferme malgré la peur, malgré les menaces, apprendre à te suivre, quel qu'en soit le coup. Et puis cette autre leçon dont nous avons entendu parler aujourd'hui, où il a dû lâcher prise, où il a dû être bousculé, ne pas être trop ferme dans certaines de ses convictions, Seigneur. Et je prie que tu m'aides et que tu nous aides à trouver l'équilibre entre les choses sur lesquelles il ne faut pas lâcher, les choses qui sont importantes, les choses où tu nous demandes de te suivre, quel qu'en soit le coup. Et puis d'un autre côté, les choses où peut-être on s'obstine alors que toi tu nous demandes de changer, de s'assouplir, de s'adoucir, que ce soit l'accueil les uns et des autres, ou que ce soit autre chose, Seigneur. Qu'on puisse rester tendre dans nos cœurs, dans nos vies, pour que l'action de ton esprit puisse se faire, qu'on puisse entendre ta voix qui nous parle peut-être et qui nous demande d'aller vers notre corneille à nous pour l'accueillir, pour élargir notre vision des choses et notre connaissance de toi, Seigneur.
Oui, Seigneur, j'aimerais, c'est vrai, tu accueilles tout le monde, tu m'as accueilli dans ta vie, et à travers toutes les épreuves que je suis passée, et j'en ai passé beaucoup, et dans cette faiblesse de mon corps, tu m'as montré que malgré ça, je pouvais être fort parce que tu m'as donné la foi de continuer à m'appuyer sur toi, quel qu'il en soit. Et je veux te dire que, comme le disait Paul, on s'accroche à toi. Tu nous tends la main, quel que soit ce que l'on vit, ce que l'on est, quelles que soient nos faiblesses, tu nous tends la main, tu nous accueilles, tu accueilles tout le monde, tu m'accueilles dans mes faiblesses, dans mes fautes, dans mes péchés, tu m'as accueilli et je veux te louer, quelles que soient encore les épreuves qui m'attendent dans ma vie, je ne lâcherai pas ta main, parce que toi, tu m'as tendu la main et tu ne la lâches pas. Et merci parce que tu, même si je ne viens pas tous les dimanches dans cette paroisse, je veux te remercier parce que vous m'accueillez tous. Et merci pour la vie de... J'aurais pu perdre la vie souvent, et toi, tu m'as relevé. Tu as permis que je continue. Merci. Nous te remercions assez, jamais assez. On t'apporte les intentions de prière, mais nous devons aussi souvent dire merci et je t'aime et je vous aime.
Amen. 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 Face à la mort et à tout ce qui est porteur de mort, dans le monde, nos sociétés, nos familles en nous, face au malheur, à la souffrance, à la peur, à la culpabilité, à la dévalorisation de soi, il y a la résurrection de Jésus, promesse de vie, de pardon, d'amour, de rencontre. Promesse que jamais rien n'est perdu, que tout reste possible puisque la vie a triomphé de la mort et du mal. À toi la gloire.
À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau.
Ressuscité.
Pendant le repas de la Pâque juive que Jésus prenait avec ses disciples, il prit du pain, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe de vin, il prononça la prière de bénédiction et la donna à ses disciples en leur disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang pour une multitude de personnes ». Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne le boirai plus jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume de Dieu. Espérance pour notre vie. Amen.
Nous prions. Dieu notre Père, merci pour l'œuvre accomplie à la croix par Jésus ton Fils. Merci pour notre salut, le nôtre non seulement, mais celui, comme le dit le texte, d'une multitude. Merci de faire partie aujourd'hui de ton corps, qui est l'Église. Merci de nous y avoir associés à ce point. Nous te prions de nous aider à faire suivre ce que tu as initié. Et puis fais-nous ce privilège, alors que nous prenons ce pain et ce vin, de nous remémorer ce qu'il t'en a coûté et de réussir à nous projeter vers l'avenir et ce jour glorieux où nous le prendrons nouveau avec toi dans le royaume. Amen.
Que tout homme pieux et amis de Dieu jouissent de cette belle et lumineuse solennité. Tout serviteur fidèle qu'il entre avec allégresse dans la joie de son Seigneur. Ainsi donc, entrez tous dans la joie de notre Seigneur. Premiers et derniers, recevez la récompense. Riches et pauvres, chantez en chœur tous ensemble. Les vigilants comme les nonchalants, honorez ce jour. Vous qui avez jeûné, et vous qui n'avez pas jeûné, réjouissez-vous aujourd'hui. Que nul ne déplore sa pauvreté, car le royaume est apparu pour tous. Que nul ne se lamente sur ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau. Que nul ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous en a libérés. La table est préparée, mangez-en tous. Le veau gras est servi, que nul ne s'en retourne à jeun. Jouissez tous du banquet de la foi, au trésor de la bonté. Nous passerons dans les rangs avec le pain et le vin. Les gobelets de couleur sont du jus de raisin. où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? Christ est ressuscité et tu as été terrassé. Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie. Christ est ressuscité et voici que règne la vie. Le Christ est ressuscité, il n'est plus de mort dans les tombeaux, car le Christ est ressuscité des morts. À lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Amen. C'est une homélie de Saint Jean de Chrysostome pour le saint et grand jour de Pâques.
Je vous invite à rester assis ou vous lever comme vous voulez pour chanter ce dernier chant qui veut proclamer notre confiance en l'Éternel.
Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur, alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi.
Et j'aimerais vous envoyer dans la nouvelle semaine avec ces quelques mots de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5, versets 21 jusqu'à 6, verset 2. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance. Ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. En effet, Dieu déclare, « Au moment favorable, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Eh bien, voici maintenant le moment vraiment favorable. Voici le jour du salut. Joyeuse Pâques à chacun, chacune.
Ne partez pas, il y a le café et un apéritif. Cette bouteille, c'est froid, c'est dur, comme le rocher dans lequel le Christ a été enseveli. Elle est bien fermée par un bouchon bien solidement fixé, comme la pierre qui a été roulée devant la porte. Mais...
Wow.
Attention, il faut que je trouve le bon endroit pour ouvrir. Ah. Michel, viens à mon aide. C'est vraiment très très bien fixé comme la pierre roulée devant le tombeau du Christ, mais le bouchon saute comme la pierre est roulée. Alors santé, réjouissez-vous, c'est la résurrection. C'est trop tard. Ben c'est exactement ce qu'il faut.